dérange. Le roi vous dit de prendre soin de vous.
Sous Denis Ier?
Des vôtres, des autres. Mon nom est Denis Ier de Lens. Marc Bellemare et Marceau s'en viennent. Salut.
Leclerc Communication vous rappelle que tout ce qui passe mode revient inévitablement au goût du jour. Le disco avec Daft Punk. We're up all night to get lucky. Karate Kid avec Cobra Kai.
All right, you ready to begin your training?
Yeah, sensei.
What the? Oh!
Lesson one, strike first. Mercy is for the weak.
Le pop-punk avec le revival de Blink-182. Puis même les coupes longueuil puis les permanentes.
Jeff qui me dit, là, moi, je m'en vais me faire faire une permanente.
OK.
Puis je vois que Nathan a une permanente.
J'ai pas de permanente, moi. Hey, c'est mes cheveux à moi, ça.
OK.
Ça frise de même, moi.
C'est tout à ton nom.
C'est tout à moi, ça.
Boulevard 102. Le retour de la force de la radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Maître Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien. On a une belle journée quand même à Québec. On pensait que ça allait être une journée nuageuse. Finalement, on a eu un peu plus de soleil qu'escompté. Faut se compter chanceux, puis en plus, ben moi je reviens d'une belle fin de semaine. J'étais dans le secteur de Bromont, Maître Bellemare. J'ai été dans un tournoi de hockey pour mon jeune, qui est dans la catégorie novice, puis il était dans ses premiers tournois. Donc, de voir à quel point il était excité d'être avec ses amis en tournoi de hockey, de voir à quel point les jeunes veulent compétitionner contre les autres villes. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai bien aimé ma fin de semaine.
Est-ce qu'il couche chez des gens locaux? D'habitude, les tournois, c'est un peu ça.
Non, on a dormi à l'hôtel Castel à Granby.
À Granby, oui, c'est la rue principale, ben oui.
Exact, on a dormi là. C'est un bel hôtel, là. Je veux dire, le staff est là, le fun, c'est propre, c'est pas cher. Fait qu'on a passé un super de beau week-end. On est allé manger avec les parents aussi. C'est des belles fins de semaine. Je considère ça comme des fins de semaine de vacances, moi. Il y en avait juste un, il faut dire. Là. L'autre était avec sa mère.
Ah, OK. Parce que moi, dans mon temps, il y a 20-25 ans, quand je faisais des tournois avec les enfants, des tournois de hockey, souvent, les jeunes allaient coucher chez quelqu'un de la place. Mais c'était surtout dans le Pee-wee, là, un peu plus vieux. C'est sûr que dans le novice, ils sont pas mal bébés encore. Là, ils veulent avoir les parents pas trop loin, puis c'est toujours délicat. Mais d'habitude, l'endroit où le tournoi se tenait, il y avait comme une liste de parents qui étaient prêts, qui avaient des enfants qui jouaient au hockey, évidemment, qui étaient prêts à héberger l'espace d'un soir, là, une nuit, là, un enfant qui venait de l'extérieur. Mais je pense que ça se fait moins aujourd'hui.
Bon, moi, je ne me sentirais pas à l'aise de me laisser mon enfant chez d'autres parents, surtout si je ne les ai jamais rencontrés. J'étais un peu père poule, moi, Maître Bellemare.
Oui, avec les belles nouvelles qu'on a sur les pédophiles qui garnissent nos pages... Et nos antennes, c'est toujours... ouais, t'as raison. Aujourd'hui, je suis pas sûr que je le ferais. Dans le temps, je le faisais, mais je m'assurais toujours d'avoir les parents là, qui étaient bien... Mais moi, j'en ai hébergé souvent. Je me souviens dans le tournoi Pee-wee de Sillery à l'époque. Maintenant, c'est le tournoi Pee-wee de Sainte-Foy.
Ouais.
Sainte-Foy-Sillery, mais dans le temps du tournoi Sillery, moi, chaque année, j'hébergeais des jeunes qui venaient jouer à Sillery. Puis ils venaient de Rimouski, Gaspé... Montréal, il était bien content de pouvoir passer une couple d'heures, une couple de jours dans une famille locale. Mais effectivement, les temps ont changé. Peut-être c'est plus compliqué aujourd'hui. Puis des tournois, dans mon temps, on en avait trois. On avait un local, puis on en avait deux à l'étranger. C'est encore le cas?
C'est une bonne question que vous me posez là, honnêtement. Là, je ne sais pas combien de tournois qu'on va avoir cette année. Là, c'est le premier, puis je pense qu'on en a un autre qui s'en vient dans le mois de février.
Ah, OK. Bon.
Voilà.
Parfait.
Donc, c'est ça. Mais c'est des belles expériences qu'on a avec nos enfants. Je viens de rétablir la communication visuelle avec Maître Bellemare. Je pense que ça y a fait une surprise. Coudon, j'ai-tu l'air si vieux que ça, Maître Bellemare? Je vous ai fait peur.
Non, t'es pas trop vieux, mais tu ferais un excellent président américain ou un excellent chef de parti. Mais qu'est-ce que tu veux?
Je vous l'ai dit, Maître
On
Bellemare,
peut pas tout faire. On peut pas tout faire.
Je vais aller en politique seulement si vous êtes le chef de ce parti politique-là et je vais travailler pour vous dans l'ombre. Ce serait un métier que je ferais probablement jusqu'à la fin de mes jours, Maître Bellemare. Mais visiblement, la politique ne vous intéresse pas. La politique active, je parle, ne vous intéresse pas. Donc, je vais rester animateur de radio. Ça me va très bien. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'excitante course à la direction du Parti libéral du Québec qui est officiellement lancée, mais sans pour autant dire que les candidats, ça vaut pas cher. Mais il semble que ça manque de bonne humeur, ça manque de dynamisme, ça manque de jeunesse. Je regarde ça, Pablo Rodriguez, c'est de la vieille politique. Il était au fédéral. Il va avoir à vivre avec le gouvernement de Justin Trudeau. Un gars hyper brillant, qui s'exprime bien. Je pense qu'il est capable de parler trois langues. Un gars très le fun, mais c'est pas le gars qui va faire découvrir le Parti libéral du Québec aux régions. Après ça, on a un Denis Coderre qui en a déjà peut-être un peu trop fait en politique. On a un gars qui s'appelle Charles Milliard, que je trouve intéressant, qui est quand même assez jeune, autour de la quarantaine, mi-quarantaine, Charles Milliard, un homme d'affaires qui se lance dans la course, qui a un déficit de popularité, là. Les gens ne connaissent pas Charles Milliard. Je veux dire, cette campagne-là va être très particulière, là.
Oui, puis M. Milliard a annoncé aujourd'hui qu'il y avait Raymond Bachand, l'ancien ministre des Finances. Qui était de Jean Charest, qui était qui a donné son appui, mais c'est encore une fois de la vieille garde. Là, on a l'impression qu'on a de la misère à aller chercher des gens connus, des gens jeunes du côté libéral. Mais le problème du Parti libéral du Québec, c'est qu'il n'a pas réussi à connecter avec les comtés hors Montréal. Tous ces élus sont à Montréal. Il y a à peu près le même nombre de votes que le Parti conservateur du Québec. Et il y a quand même, compte tenu de la concentration de son vote à Montréal, il y a quand même plus de députés. C'est pas dur parce qu'Éric Duhem n'en a aucun, mais il y a quand même 500 000 votes pour lui. Alors, c'est parce que son vote est trop éparpillé un peu dans le Québec et il n'y a pas de comté. Mais c'est vrai qu'au niveau libéral, avec la CAQ qui plaît aux régions, le PQ qui plaît aux régions, là, les régions, je parle aussi de Drummondville, je parle de Rimouski, je parle de Rivière-du-Loup, je parle de Victoriaville, je parle de Deux-Montagnes. Tout ce qui n'est pas Québec ou Montréal, la CAQ et le PQ présentent quand même un bon score en politique. Ils sont populaires. Ils ont des chefs. Legault est déjà premier ministre. Paul Saint-Pierre Plamondon fait quand même bonne figure. C'est un chef crédible, apprécié. Éric Duhaime, il garde quand même pas mal sa cote. Québec solidaire a aussi sa clique. Puis là, les libéraux essayent de trouver une niche à travers ça, mais il y a beaucoup de cases occupées, là. T'sais, ils ont de la misère à se distinguer des autres partis qui ont des clientèles bien précises. Québec solidaire est très bien implanté dans la région de Montréal, donc c'est difficile d'aller chercher plus des comtés francophones plus que ça pour les libéraux. Dans les régions, comme je te dis, il y a déjà des candidats intéressants du côté de la CAQ et du côté du PQ. Alors, ça ne sera pas facile. Et M. Rodriguez, qui est le mieux coté actuellement, qui est un ancien ministre de Justin Trudeau, qui l'a été jusqu'à il y a quelques mois, bien lui, il traîne des casseroles, là.
Exact.
Il peut avoir une certaine popularité au niveau des libéraux convaincus et qui n'ont pas changé d'idée au niveau québécois, mais. Il traîne des casseroles parce que quand il a quitté Trudeau, le caucus le Conseil des ministres de Justin Trudeau, il y avait quand même 61 milliards de déficit annuel annoncé, les dépenses de fou. Il a voté pour ça, lui-là, dans le gouvernement Trudeau. Il est obligé de porter si tu veux, les mauvais côtés du gouvernement Trudeau, ce pourquoi Trudeau est si impopulaire. Il s'en vient au Québec avec ça, mais d'ailleurs, dans le dernier caucus libéral, je pense que tous les candidats, c'était pour M. Milliard et M. Coderre, avaient d'ailleurs reproché à Rodriguez de traîner avec lui un comportement au niveau finance qui était tout à fait inacceptable parce qu'ils ont mis le Canada dans le trou, puis le Québec aussi, parce qu'on paye notre part de la dette, hein, Yannick, on est encore dans le Canada, puis
Ouais.
on a 22% de la population, fait qu'on voulait payer de toute façon, peu importe ce qu'on fait avec l'avenir du Québec. Alors, c'est ça, c'est tout un défi. Et là, c'est sûr qu'ils essaient de se faire voir. Puis là, aujourd'hui, ils sont présents dans l'actualité. Monsieur Milliard a présenté sa gang. Monsieur Rodriguez a présenté sa gang. Mais au-delà de ça, ça ne sera pas facile d'aller chercher des votes des Québécois. Bonne chance pour les libéraux du Québec. Je suis pas sûr qu'ils vont, s'il y avait une élection demain matin, qu'ils auraient un meilleur score que ce qu'ils ont eu déjà en 2022.
Maître Belange, je voulais vous poser une question. Il y a quelque chose qui est arrivé la semaine passée. Bon, je pense que ça se passait dans, ben, ça, en fait, ça se passait dans une cour criminelle. Un juge qui a comme dit aux avocats de la couronne et de la défense que leur sentence, qui s'était entendue ensemble, n'était pas assez sévère, mais il était obligé de se mettre du côté de la décision qui avait été mise en place entre les deux avocats. Puis le juge disait, si ça avait été moi, ça aurait été beaucoup plus sévère. On parlait d'histoire d'une agression, d'histoire d'agression sexuelle de mémoire. Est-ce que les juges sont obligés d'accepter une sentence qui a été acceptée par la défense et la couronne? On dirait que j'ai raté un épisode. Il y a un autre journaliste qui m'a écrit pour me dire, oui, Yann, il s'est passé de quoi dans les dernières années, qu'on demandait au juge effectivement de se plier à l'entente qui avait été faite entre les deux parties. Puis le juge qui se plaint un peu en disant, ben, si ça avait été moi, ça aurait été plus sévère. Je pense qu'on parlait d'une peine de 42 mois de prison de mémoire, là.
Ouais, mais il aurait dû, le juge, il aurait pu évidemment se rejeter l'entente entre le procureur du DPCP, le procureur de la Couronne et le procureur de la Défense. Il aurait pu le faire. C'est certain qu'en matière criminelle, parce que là, on ne parle pas en matière civile, c'est très différent, mais en matière criminelle, c'est la couronne qui accuse et qui demande une peine. Et souvent, il se produit ce qu'on appelle du plea bargaining, c'est-à-dire la couronne dit, nous autres, on est portés à demander telle peine parce que le gars a déjà été condamné ou reconnu coupable ou il a déjà plaidé coupable. On veut telle peine, la défense veut telle peine. Ben, la défense veut une peine dans la communauté d'un an et demi, puis la poursuite veut que 3 ans. Alors là, ils s'entendent pour avoir, je sais pas moi, un an et demi ou 2 ans dans la communauté, 2 ans moins un jour dans la communauté, quelque chose du genre. Et là, ils se présentent devant le juge regarde le dossier, puis il dit, mais ça n'a pas de bon sens, vous avez un individu qui a commis des crimes horribles, et puis vous demandez 2 ans moins un jour dans la communauté, ça n'a comme pas de bon sens. À ce moment-là, la Cour suprême a décidé, il y a plusieurs années, que le juge, bon, il n'y avait pas une obligation automatique, systématique, d'approuver l'entente entre la défense et la couronne, mais à moins que la proposition soit déraisonnable, le juge devrait entériner la suggestion et prononcer une peine qui va dans le sens de ce qui est suggéré par les deux avocats, si ce n'est pas déraisonnable à ses yeux. Fait qu'il y a quand même une discrétion. Le juge a quand même une possibilité d'imposer une peine autre que celle qui est suggérée par les avocats. Ça dépend de chaque juge, ça dépend de sa sensibilité. Mais moi, quand j'ai lu cette dépêche-là, Yannick, j'ai été très surpris que le juge fasse des commentaires de ce type-là en disant que ça n'a pas d'allure, que ce n'est pas assez. Puis,
Exact.
monsieur, vous êtes bien chanceux de vous en sortir avec ça. Puis, le titre, c'était d'ailleurs peine bonbon. Tu sais, écoute, puis le juge a décidé d'entériner malgré ça. Moi, je n'ai pas compris son raisonnement.
C'est le juge
Parce qu'il
même.
aurait pu dire, tu sais, s'il y avait des commentaires aussi durs pour la suggestion commune, ben, il y avait le pouvoir, la Cour suprême, il donne le pouvoir de dire, on l'écarte, puis impose, toi, juge, une peine plus sévère que tu aurais choisie dans les circonstances, parce que la peine suggérée est une peine bonbon. Il l'a pas fait. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il y avait le pouvoir de le
Ben
faire, effectivement.
c'est pour ça que j'étais un peu confus. C'est le juge Manlio Del Negro. Le titre de l'article, c'est Peine excessivement clémente, 42 mois de prison pour un comédien qui a agressé des femmes dans leur sommeil. Le comédien, c'est un gars qui n'est pas vraiment connu, là. Il a fait quelques apparitions à la télé. Son nom, c'est Émile Baudry. Et lui, il a reconnu sa culpabilité à 4 agressions sexuelles. Il y a eu une entente avec l'avocat de la défense puis l'avocat de la couronne sur le 42 mois. Et le juge a dit, si les avocats m'avaient laissé la discrétion de rendre la sentence, elle aurait été beaucoup plus sévère que celle suggérée aujourd'hui. En plus d'ajouter que c'est la première fois qu'il voyait ça de sa carrière. Il dit, l'accusé a utilisé la violence sexuelle pour se venger contre ses partenaires intimes. Il ne voulait pas faire l'amour. Il a fait ça dans le but de les déshumaniser, de les mépriser. Lui, il disait aux filles, quand les filles se réveillaient là, en se rendant compte qu'il était en train de se faire agresser sexuellement, il disait aux filles, rendors-toi, ça sera pas long. Laisse-moi finir.
Non, c'est ça. Non, c'est dégueulasse. Mais ce qui est inacceptable aussi, c'est que le juge n'a pas compris qu'il y a une discrétion dans les circonstances. Puis avec les commentaires qu'il fait, la conclusion logique, à mon avis, c'eût été, parce que là, on parle au passé, puis on ne peut pas revenir là-dessus, mais c'eût été de rejeter la suggestion commune et de prononcer une peine plus sévère.
Ouais, ben...
Et ça, là, Yannick, là, moi, je ne suis pas un criminaliste, là, je ne défends pas des criminels, puis je n'accuse pas des criminels. Mais je suis de ceux qui pensent que notre justice criminelle est trop clémente, de façon générale. Et ce genre de cas-là, qui est rapporté par les médias, parce que la justice est publique, il y a bien sûr des journalistes qui suivent ça, puis qui sont tout aussi scandalisés de cette conclusion-là. Voici un criminel grave, avec des actes criminels multiples, répétitifs, de nature sexuelle, qui ont eu des conséquences importantes sur les victimes, qui s'en tirent avec une peine bonbon. Le juge ne dit pas peine bonbon, mais on a tous compris que c'est ça que ça voulait dire. Et le juge entérine ça. Alors, c'est beaucoup de mots, mais c'est une conclusion qui est déplorable. Et c'est certain que, aux yeux de la population, parce que la crédibilité du système judiciaire, comme la crédibilité du système politique, les partenaires qui appartiennent à ce système-là doivent s'organiser pour que le système soit crédible. Quand tu vois des députés qui s'engueulent puis qui se traitent de nono au Parlement avec des termes qu'on n'utiliserait même pas dans la vie civile, tu te dis, ben quelle sorte de... Le Parlement en folie, tu sais, ça nuit à la crédibilité. Les gens se disent, on vote pour ces députés-là, on les paye cher, on a un gouvernement qui nous coûte cher, on est en démocratie, puis les députés nous font honte. Bien, le système judiciaire, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que les juges ont quand même une responsabilité, puis les avocats aussi, de s'organiser pour que le système judiciaire soit crédible, que les gens adhèrent au système judiciaire, qu'ils disent on a un bon système, on a des bons juges, on a des bonnes conclusions. Et il y a des fois, dans des cas comme celui que tu viens de mentionner, où on a un peu manqué le bateau, parce qu'on a une peine qui a pas d'allure, le juge la dénonce, mais il n'utilise pas le pouvoir que la Cour suprême lui a donné de prononcer une peine plus sévère. Fait que voici encore une fois un criminel accusé et condamné pour des crimes sexuels graves qui va s'en sortir pour peu de choses. Et à mon avis, faut pas que ça arrive trop souvent si on veut que notre système tienne la route puis que les gens, comme toi et moi, aient confiance et soient fiers de ce système-là.
Est-ce que vous pensez qu'avec le retour de Pierre Poilievre, on va revenir avec des sentences comme on avait vu avec les anciens conservateurs ou on va laisser le fiasco dans lequel nous a laissé
non,
Justin?
C'est certain que Poilievre va sévir. D'ailleurs, dans ses propos, et je suis très content de ça, et je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises et je l'ai écrit, Poilievre, dans la tradition du Parti conservateur du Canada, puis là, on parle du Code criminel, donc ça relève du gouvernement du Canada parce que le Code criminel, c'est le même code from coast to coast. C'est une loi fédérale, ça relève du gouvernement du Canada et non pas du Québec. Le Québec peut suggérer, mais c'est la Chambre des communes qui adopte et qui modifie le Code criminel. Alors, dans ses propositions, il parle beaucoup de la taxe carbone, puis il parle beaucoup des finances publiques, puis du logement à Poilievre. Mais une de ses priorités, c'est lutter contre le crime. Quelle forme ça va prendre dans son gouvernement, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, il n'est pas au pouvoir, il n'est pas assis sur le siège du pilote. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées déjà, par exemple pour les vols de voitures, les chartes qu'il veut peut-être écarter avec la clause dérogatoire pour permettre d'avoir des peines minimales, les meurtres multiples, comme dans le cas de Bissonnette, il a dit qu'il allait sévir là-dessus pour s'assurer que les criminels qui tuent 3-4 personnes soient punis en fonction de 3-4 personnes et non pas en fonction d'une seule, comme Bissonnette, le chanceux, l'a été suite à la fusillade de la mosquée. Alors oui, il va y avoir des changements importants et je le souhaite parce que je pense que la justice criminelle mérite d'être plus sévère. Et le gouvernement doit jouer un rôle. Les juges décident du cas par cas, le code criminel avec les peines de base, les peines maximum, les règles de preuve, c'est dans le code criminel et ce code criminel-là mérite d'être renforcé à mon avis parce que Trudeau, lui, a fait le contraire depuis 2015 avec la loi C-75, il a favorisé les libérations des criminels, même les plus dangereux. Avec la loi C-5, il a ouvert la porte à des peines à la maison dans des crimes graves comme des menaces de mort, de l'alcool au volant, de la négligence criminelle, les agressions sexuelles. Alors, Poilievre a déjà annoncé qu'il allait modifier cette loi-là ou l'abroger pour que les peines soient plus sévères. Et je suis très content de ça, qu'on est dû pour ça, parce que avec Trudeau, là, il y a un sérieux dérapage du côté de la mollesse de notre système qu'il faut, à mon avis, rectifier.
Ben, je pense qu'au niveau du tough on crime, on va être content de voir les conservateurs revenir. Si ça peut cesser un peu plus la violence, c'est terrible. Hein? J'apprenais cet après-midi, parce que je ne sais pas si vous avez vu ça passer, il y a eu une fusillade, en fait, un individu qui a tenté d'en tuer un autre dans le secteur de Saint-Nicolas, dans le stationnement d'un hôtel à Saint-Nicolas. Et il n'y a pas eu échange de coups de feu, là. C'était vraiment quelqu'un qui voulait mettre fin à la vie de l'autre individu. Plusieurs coups de feu, policiers appelés sur place. On retrouve un individu par terre dans la vingtaine. Puis cet après-midi, on s'est aperçu qu'il y avait erreur sur la personne. C'était pas la bonne personne qui avait été visée. Ça aurait pu. Puis à l'intérieur de l'hôtel, dans le hall d'entrée, on nous raconte qu'il y avait à peu près quatre équipes de hockey qui étaient là, qui étaient en attente d'avoir leur chambre. Ça aurait pu encore tuer plus de monde que ce compter pour l'individu qui a décidé d'ouvrir le feu. Heureusement, l'homme qui a été tiré semble peut-être pouvoir s'en sortir, de ce que je comprends. Mais pour les autres qui ont assisté à ça, les autres, ils vont se souvenir de ça toute leur vie, là.
Bien, c'est sûr. Puis, tu sais, on a tendance à. On a, par exemple, au Québec, là, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui lui dit, je suis pour les victimes, je vais modifier la loi de l'IVAC pour couvrir plus de victimes, je vais créer des tribunaux spécialisés pour les cas de violence sexuelle. Je vais modifier les règles de preuve dans le code civil pour les gens qui poursuivent les agresseurs sexuels au civil pour être indemnisés. C'est beau tout ça, mais il faut jamais oublier le fait que pour une victime d'acte criminel, peu importe le crime, agression sexuelle, invasion de domicile, négligence criminelle sur la route, peu importe, les victimes, là, s'il y a une peine correcte qui est imposée, correcte, ça veut dire assez sévère, tenant compte des conséquences sur les victimes, c'est le premier pas vers un retour à la vie normale. Moi, j'en connais là, des victimes de criminels, j'en connais des milliers. Ça fait 46 ans que je les défends. Je les reçois quotidiennement dans mon bureau. Et je peux vous dire une chose, c'est que la première difficulté qu'ils rencontrent souvent, et ce avec quoi ils ont de la misère à composer au plan psychologique pour faire le deuil sur ce qui est arrivé, c'est la peine bonbon. Là, ils me racontent qu'une femme me raconte qu'elle a été battue, tirée en bas d'un escalier, des côtes pétées, des vertèbres pétées, traumatisme crânien, puis le gars, il a pogné 3 mois de prison. Exemple. Penses-tu que cette femme-là va retourner à une vie normale rapidement? Pas du tout, parce qu'elle, elle est bloquée mentalement par la peine bonbon qui a été prononcée sur son agresseur. Et on n'a pas idée des conséquences que ça a. Fait que ça coûte cher au plan social, parce que si cette victime-là est indemnisée par IVAC parce qu'elle ne peut pas travailler pendant 2 ans plutôt que pendant 2 mois, ben c'est quand même beaucoup de temps de plus sur le fardeau fiscal québécois, parce que c'est les Québécois qui payent pour ça, ces frais-là. Alors, quand la peine est juste et équitable, la victime est satisfaite, ça ne lui donnera pas la santé, ça effacera pas ce qui est arrivé, mais ça favorise son retour à la réadaptation, au retour à la vie normale et le retour éventuellement sur le marché du travail. Et c'est pour ça que ça prend des peines plus sévères. C'est pas juste pour qu'on soit fier de notre système puis que les criminels payent pour leurs crimes, c'est pour que les victimes puissent faire le deuil, tourner la page puis se dire, ben, je suis satisfait de la victime, de la peine qui a été prononcée. On m'a entendu, on m'a cru, on m'a considéré à la hauteur des problèmes que j'ai, problèmes de santé que j'ai suite à l'agression. Et je retourne travailler, comprends-tu? C'est ça C'est ça la game. Et le ministre de la Justice du Québec n'a aucun pouvoir sur le code criminel, mais de temps en temps, avec justesse, il dit publiquement au fédéral, allez-vous changer le code criminel pour le rendre plus sévère? Fait que je pense que vraiment, on est rendu là. Et les Québécois, les Canadiens veulent avoir une justice plus sévère. Puis ça passe par un seul parti politique, c'est le Parti conservateur de Pierre Poilievre.
Maître Bellemare, on parle du dossier d'Alain Laganière qui a été récemment condamné à 1 an de prison pour possession de pornographie juvénile. C'est pas un gars de Québec, c'est un gars de Boucherville. Lui avait une copie de son disque dur à faire, puis il a fait affaire avec un commerce de la région où il habite. Et le technicien, quand il a décidé de transférer tous les éléments qu'il y avait d'un disque dur à l'autre, bon, visiblement, il semble les avoir consultés. Il s'est rendu compte qu'il y avait de la pornographie juvénile à l'intérieur de ces dossiers-là. Et il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire contacter les policiers. Le fichier de stockage contenait près de 800 000 fichiers pornographiques. 800 000 fichiers pornographiques. Et l'homme a quand même poussé l'audace à aller faire une copie de son disque dur. 1 an de prison seulement, Maître Bellemare, c'est aberrant. Puis ce gars-là, est-ce qu'il a eu sa leçon? Je pense pas.
Ouais, 1 an de prison, puis là, évidemment, il faudrait suivre l'affaire pour voir si vraiment il va faire 1 an, j'en doute beaucoup. Mais au moins, il y a de la prison, mais 1 an, c'est vraiment pas beaucoup, compte tenu de l'importance du stockage, là. On parle de 800 000 fichiers informatiques. On dit que cet homme-là avait, depuis plusieurs années, bon, en tout, il y avait 168 photos, 6 vidéos correspondant à la définition de la pornographie juvénile, 7 fichiers qui a été téléchargé par l'homme de 67 ans la veille de sa visite au magasin. Mais en plus d'être un criminel et d'être un répugnant, là, Yannick, c'est un sans-dessin. En tout et moi, là. C'est un sans-dessin. Tu sais, c'est comme, on en voit tout le temps des histoires cocasses. Là. Je sais que juste avant les fêtes, le Journal de Québec avait sorti une série de criminels nonos, là. Tu sais,
Cabochon.
tu sais, le gars qui s'en va voler puis qui laisse quasiment sa carte d'affaires sur la table de cuisine. Là. Tu sais,
Ça,
il y a
c'est
des fois qu'il
arrivé,
dit,
Maître
ben oui.
Bellemare, c'est arrivé dans le secteur de Charlebourg, un gars qui avait décidé d'aller faire, je pense que c'était une banque, là, quelque chose du genre, une caisse, puis il avait oublié son propre portefeuille sur le comptoir. On parle d'un commerce sur Henri Bourassa. Le méchant, là, il avait laissé son propre portefeuille sur le comptoir, puis il s'était sauvé. Et par la suite, les policiers étaient sur place, puis ils avaient dit, ouais, moi j'étais client de cet endroit-là, j'ai laissé mon portefeuille à l'intérieur, ce serait juste pour le récupérer. Puis les policiers ont mis la main sur lui. Et c'est comme à chaque année, il y a des gens qui dans les médias qui nous rapportent que bon, il y a eu un vol qui avait été commis dans un dépanneur. Puis les policiers n'ont eu qu'à suivre les traces dans la neige. T'sais. Ça arrive à chaque année, Maître Bellemare. Des gens mal intentionnés, c'est pas tous des Einstein de la société, là.
Bien, heureusement, au moins, ça fait ça de prix. C'est plus facile pour la police. Mais notre nono là, de pornographie juvénile, là, selon le rapport du sexologue, là, ça fait depuis 2011 qu'il consulte la pornographie juvénile. Il y a 67 ans. Ça, 2011, ça veut dire que ça fait 14 ans, 13-14 ans qu'il consomme. Puis ça, c'est ce que la preuve révèle. Probablement, les fichiers ont relaté ça, mais ça ne veut pas dire qu'il a commencé à être attiré par les petites filles qui se font agresser sexuellement sur ces fichiers uniquement en 2011. Ça doit être une déviance qui date de beaucoup plus longtemps que ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a 67 ans, il y aurait eu cette déviance-là à partir d'à peu près 53-54 ans. Ça serait quand même étonnant. Moi, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas un psychiatre, là, mais des gars qui ont été parfaitement normaux jusqu'à 54 ans, puis tout à coup, ils commencent à consulter des fichiers puis avoir le goût des petites filles, je ne sais pas, il me semble que ça sonne bizarre. Alors, le juge a quand même noté que 1 an de prison, il a dit qu'il pouvait pas être en contact avec des mineurs pendant 5 ans parce que le gars, il demeure à un endroit où il a accès à une cour où il y a des enfants.
Ah.
Alors, tu sais, le sexologue dit qu'il regarde par la fenêtre, il regarde les enfants jouer. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait pendant qu'il regarde les enfants jouer. Peut-être qu'il se donne un petit peu de plaisir. Mais en tout cas, son plaisir, il va être temporairement suspendu le temps de purger une peine qu'on dit d'1 an de prison. Fait que Un nono pédophile. Alors, s'ils étaient tous comme ça, Yannick, ça serait le fun, par contre. S'ils étaient tous nono comme ça, ben, on les pognerait toutes puis on ferait un grand ménage. Mais comme il y en a qui sont beaucoup plus brillants puis beaucoup plus intelligents que ça et qui risquent pas de montrer à une firme informatique le contenu de leur fichier aussi compromettant, ben, on va devoir continuer d'essayer de les pogner sur le web puis des mettre en dedans. Alors, mais un an, c'est vrai que c'est pas long, là, pour autant de. C'est sûr qu'il n'y a pas de victime directe. On n'a pas de preuve qu'il a agressé un enfant, ce qui est quand même différent. Ça veut pas dire qu'il n'en a jamais agressé, mais on n'a pas la preuve qu'il en a
Il n'y
agressé,
a pas de
mais.
victime directe, Maître Bellemare, mais les jeunes qui sont dans ces vidéos-là se sont fait agresser. C'est comme si on participait, là, en
Oui, c'est
consultant ça,
ça.
c'est comme si on consentait à ce que ces jeunes-là se fassent agresser. Ben,
Tout à
moi,
fait.
les sentences devraient être aussi élevées que la personne qui a initié ces mouvements-là avec des jeunes. Mais un an, c'est pas
Mais
assez,
pour
là.
ça, il faudrait mettre une peine minimale. C'est ça que je disais tantôt, c'est que les conservateurs, en 2011, ont voté la loi C-10 qui prévoyait des peines minimales, mais les tribunaux, depuis ce temps-là, ont annulé ces mesures-là en disant que c'était trop sévère, puis ça brimait la liberté du juge de décider dans des cas où c'était des peines ou des gestes pas trop graves qui avaient été commis, mais. Tu sais, la pédophilie ou le transfert de fichiers ou la consommation d'images pornographiques juvéniles, le gouvernement du Canada peut demain matin voter une loi modifiant le code criminel qui va dire, par exemple, c'est 3 ans minimum. Moi, je suis d'accord avec ça. Si la société canadienne et québécoise est rendue là, puis qu'on s'entend. T'sais, il y a un consensus social pour dire la pédophilie, on en a marre, on va mettre une peine de 3 ans minimum, ben le juge va devoir partir à 3 ans. Il n'y aura pas le choix. Mais pour ça, il faut modifier le code criminel puis introduire des peines minimales pour empêcher les juges de prononcer des peines en deçà de ce seuil-là. Et les conservateurs l'avaient fait, mais Poilievre a déjà dit qu'il allait le refaire aussi et peut-être adopter dans la même modification du code criminel une mesure pour adopter la clause dérogatoire pour empêcher la charte de s'appliquer pour permettre au juge d'annuler la modification en question.
Autre sujet, Maître Bellemare, moi j'ai été flabbergasté en bon français sur les résultats, les policiers qui ont intensifié leur présence pendant le temps des fêtes. On parle du 29 novembre 2024 au 2 janvier 2025, donc un mois et quelques poussières. Durant ce un mois et quelques jours, il y a eu 2 828 contrôles routiers qui ont été réalisés dans la province. Et sur les 2 800 contrôles routiers, il y a eu 800 arrestations, Maître Bellemare, pour conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou par la drogue. C'est encore extrêmement élevé. J'étais persuadé qu'il y aurait eu peut-être à la grandeur du Québec sur un mois qu'il allait avoir peut-être 200 personnes. Là, on parle de 800 arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies.
Ouais, on est trop docile. Parce que si on mettait sur les panneaux routiers une information, je te donne ça comme exemple, là, à l'effet que l'alcool au volant, là, ça entraîne une peine minimale de prison de 4 mois. Imagine-toi, là, que le gouvernement fédéral modifie le code criminel, le Québec suit avec le code de la sécurité routière, puis il dit, alcool au volant, à partir de 0,08, tu vas faire 4 mois de prison. On va te prendre par le collet, puis on va t'envoyer en dedans. Je peux te dire une affaire, on n'aurait pas 800 cas là, dernièrement. On en aurait beaucoup moins que ça parce qu'il y aurait une crainte, il y aurait une menace. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas de peine minimale. Hein. Il y a une suspension de permis, puis gnagnagna, puis on ne sait pas trop s'ils conduisent quand même, puis c'est plus ou moins contrôlé. Mais la peine minimale au niveau de l'alcool au volant, c'est la deuxième récidive. Ça veut dire que tu peux te faire pogner une fois, deux fois. La troisième fois, tu as une peine minimale de 120 jours d'emprisonnement dans le code criminel. Alors, c'est pas. Moi, je pense que les gens prennent une chance, puis ils se font pogner, puis il y a des conséquences à ça, mais c'est encore relativement courant de voir des gens conduire en état d'ébriété. Quand je te dis là, l'opération a duré 35 jours. C'est un échantillon de 35 jours. Je comprends que c'est dans le temps des fêtes, il y a des parties puis tout ça. Mais je ne suis pas sûr qu'ils ont fait la même affaire au mois de juillet, dans le temps des vacances de la construction, dans le temps des parties, puis des épluchettes de blé d'Inde, puis des campings, puis tout ça, parce qu'il y a il y a des périodes où il y a une bonne consommation d'alcool aussi, c'est pas nécessairement dans le temps des fêtes, mais ici, on parle de 35 jours, 750 personnes, juste au Québec, la Sûreté du Québec, ont été arrêtées pour conduite en état d'ébriété, tandis que 110 autres l'ont été pour avoir pris le volant après avoir consommé de la drogue, ce qui fait 860 personnes en l'espace de 35 jours au Québec.
Parce que, tu sais, je comprends là, que il y en a qui vont vouloir augmenter les sentences, mettre des sentences de prison, même à la première fois où tu perds ton permis de conduire. Mais quand on se fait prendre pour alcool au volant, c'est rendu sérieux, là. On parle d'un dossier criminel qui va vous empêcher probablement peut-être de faire votre travail que vous faites actuellement. Après ça, c'est pas de voiture pendant un an. C'est des frais qui s'affairent à ça parce que vous n'avez pas de voiture. C'est votre police d'assurance qui va augmenter. C'est du moment où vous allez récupérer votre voiture avec votre permis de conduire, bien entendu, il va y avoir un souffleux que vous allez avoir dans votre véhicule. Puis de mémoire, c'est une location. Donc, vous allez devoir payer la location du souffleux dans votre véhicule pour devoir souffler constamment. C'est des rencontres au garage pour faire calibrer ça. Il y a un impact majeur. Puis honnêtement,
Ouais. Il y a certains
800.
déshonneurs aussi qui peuvent être attachés à ça selon le milieu social auquel tu appartiens, évidemment.
Effectivement, mais 800 prises par la Sûreté du Québec, par nos services de police, je trouve ça très élevé encore. T'sais, un camionneur qui perd son permis de conduire peut plus travailler. Un ambulancier peut plus travailler. Un militaire, ça dépend des cas. Un policier peut plus travailler. C'est majeur l'impact d'un dossier criminel dans une vie, Maître Bellemare.
Mais ce que tu dis là, il faut le répéter, il faut le dire. Moi, je me souviens, je suis allé en Thaïlande deux fois parce que mon ex-épouse était de l'Asie du Sud-Est. Je suis allé en Thaïlande deux fois avec sa famille. Et je me souviens, la dernière fois que je suis allé, c'était en 2005. Et sur les routes principales, sur les autoroutes, là, il y avait des panneaux là, aussi grands que les panneaux publicitaires qu'on a sur le bord des autoroutes au Québec, là. C'était écrit, si vous agressez un jeune mineur, vous allez 5 ans en prison. Ils mettent ça sur les panneaux. Alors, c'est l'aspect coercitif. Nous autres, ce qu'on met sur les panneaux, c'est la modération a bien meilleur goût, puis des affaires de niaiserie de même, là, tu sais, qui veut dire, ben, bois, mais bois pas trop, comme si le gars, il allait savoir qu'à partir de telle bière ou de tel verre de gin, il n'est pas apte à conduire. Alors, c'est toujours des messages mous, puis des accidents qu'on monte, etc. Mais on ne va jamais dire les conséquences que ça a. Si on avait des conséquences drastiques, avec une publicité associée à ça sur la route, parce que ces gars-là, ces filles-là, boivent sur la route. L'alcool au volant, ce n'est pas dans le cours d'école, ce n'est pas au camping, ce n'est pas pendant un show au Colisée, là. Au centre Vidéotron, là, c'est sur la route. Alors, pourquoi on ne mettrait pas ces affiches-là sur la route avec une peine sévère pour rappeler aux gens que ça s'applique et que ça va avoir des conséquences graves? Les gens ne sont pas conscients de ça. Et quand le gars prend 10-12 bières puis qu'il prend son char, bien souvent, il n'y aura pas le discernement puis le jugement pour comprendre l'importance des conséquences que ça peut avoir pour lui que de conduire en état d'ébriété. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a 800-900 cas en l'espace de 35 jours dans le temps des fêtes. Puis ça, là, c'est compte tenu des barrages routiers, compte tenu de toutes les mesures qu'on a prises pour les pogner, ces gars-là, là. Parce que, il y en a certainement plus que ça. Puis il y en a plein d'autres qui ne se sont pas fait prendre parce qu'ils étaient avant le barrage routier, après le barrage routier ou qui ont pris une route par chance où il n'y avait pas de barrage routier pour les intercepter, là.
Ah, c'est un très
C'est
bon point.
certainement 3 4 fois plus que ça, là.
Non, c'est un très bon point. Très, très, très bon point. Ce soir, on a le plaisir d'être comme à chaque lundi avec Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Le soir.
Salut Québec! La 41e édition de l'Opération Nez Rouge de Québec vient de se conclure et quel parcours exceptionnel grâce à vous, les bénévoles au grand cœur. Votre dévouement à braver le froid et la neige pour assurer un retour à la maison en sécurité a fait toute la différence. Chaque raccompagnement est devenu une soirée dont on va se rappeler. Un merci spécial à nos précieux partenaires qui rendent cette mission possible. Votre soutien fait toute la différence. On vous donne rendez-vous l'an prochain. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec de Desjardins et de Boulevard 102.1.
Chez Marlin Chevrolet, on vous fait un méchant cadeau pour bien commencer l'année 2025. Aucun paiement pendant 90 jours sur le financement de la plupart des modèles GMC, Chevrolet et Buick. Obtenez aussi le Chevrolet Silverado 1500 Custom Crew Cab 4x4 2025 à partir de $276 aux deux semaines en location 24 mois avec les changements d'huile inclus. Passez nous voir et nous trouverons le véhicule qu'il vous faut. 2145 rue Franck-Carrel, Québec.
En changeant pour Desjardins Assurances, vous pourriez économiser jusqu'à $550 en combinant vos assurances auto et habitation.
Ah oui?
Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans.
Ça change quoi?
Bien, imaginez si votre mari jouait au quilles tous les jours depuis 80 ans.
Un 300e abat d'affilée pour Gilles, la machine, la botte!
Ouais, c'est vrai qu'il devait être bon.
Desjardins Assurances, c'est pas d'hier qu'on assure, et ça, ça rassure. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
L'hôtel Terrasse du Frein, l'endroit parfait pour loger au cœur du Vieux-Québec. Offre Twango avantageuse en cour, en suite ou en chambre queen avec vue sur le fleuve, stationnement et deux bières de la microbrasserie Corsair. Visitez terrassedufrein.net pour plus de détails et pour réserver.
Vous êtes plombier ou électricien, compagnon ou apprenti. Joe Drouin, plomberie, électricité, chauffage a besoin de vous. Vous êtes compétent? Alors joignez-vous à une équipe dynamique où vous ferez la différence. Pour des projets résidentiels et commerciaux motivants. Détail à jodrouin.com. En 2025, je veux faire avancer ma carrière. Bon, j'ai de l'expérience, mais il me manque un diplôme collégial.
Vous vous reconnaissez? Nous aussi, on vous reconnaît. Vous avez de l'expérience en informatique, en pharmacie, en administration, en supervision ou en gestion de la production? Obtenez votre diplôme collégial autrement, à distance, à votre rythme et tout en travaillant à temps plein. Atteignez vos objectifs professionnels avec la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Limoilou. Voyez grand. cégeplimoilou.ca.
Un sentier. Une forêt. Un arbre. Un oiseau. Un autre arbre. Plein d'arbres. Un ruisseau. Une pente. Un étang. Une clôture à vache. Une courbe. Une plaque de glace. Un dérapage. Une roche. Un impact. Un vol plané. Un tonneau. Deux tonneaux. Trois tonneaux. Un accident mortel à motoneige. Garde ta passion en vie. Quand tu testes les limites, tu n'es plus sans contrôle. Un message du gouvernement du Québec.
Depuis 1964, le Centre Castor est la référence plein air à deux pas de Québec au fil des saisons. Ski de fond, fat bike, raquettes, village de yourtes, tout y est pour une escapade inoubliable. Rendez-vous aux soirées portes ouvertes les 8, 15, 22 et 29 janvier. Détails au centrecastor.com.
Cet hiver...
C'est Télé-Québec qui vous présente ce beat. Le délire commence au moment où tu cliques. L'expérience est hors du commun, t'écoute. Ça vient à peine de commencer, tu veux que j'en rajoute. Si t'as l'appli en main, c'est que toi aussi, t'as trop de chance. Et si t'entends cette pub, t'as pas d'excuse, faut que tu danses.
Danse, 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 danse.
Des histoires, hors du commun. Des acteurs, hors du commun. Une soirée, hors du commun. Hors du commun.
Vivez l'expérience à Télé-Québec.
Salut, c'est Chloé de Dondeur, votre courtier immobilier Remax. Acheter ou vendre avec moi, ça se fait dans le plaisir. Je serai dédié à vos besoins et à l'écoute de vos questions. Faites de votre projet immobilier une expérience tripante. Retrouvez-moi donc sur Facebook. Chloé de Dondeur, courtier immobilier Remax.
Viens t'amuser à Gogone et Doudoune, au quai de l'espace 400. Ours d'escalade géant. Symposium carnavalesque présenté par l'Épine Cloutier, Athos, du 7 au 9 février. Dégustation animée avec chef de renommée les 8, 9, 15 et 16 février et bien plus. Navette Vidéotron gratuite entre le parc de la Francophonie, le quai Chouinard et l'espace 400. Viens jouer dehors tous les week-ends de janvier, les 1er et 2 février et durant le carnaval du 7 au 16 février. Entrée gratuite, activité payante. Gogone et Doudoune. Une production du Carnaval de Québec.
C'est le retour du colo rabais chez coifferie.com. Pour rafraîchir votre repousse, votre couleur ou pour un changement de tête de dernière minute, profitez d'un rabais de 20% sur les produits de coloration jusqu'au 3 février. Coifferie.com, partenaire de vos transformations capillaires.
En janvier, ne manquez pas la vente annuelle d'Optiboutique. Profitez de 10 à 70% de réduction sur toutes nos montures. Venez découvrir nos collections exclusives au 1026 Avenue Cartier. Visitez optiboutique.com pour tous les détails. détails. Votre regard est unique, nos montures aussi.
Le programme Roulez vert sera suspendu le 1er février, mais on se calme. Chez Laval Volkswagen, on poursuit le virage électrique parce qu'il y a encore des offres très intéressantes, comme un rabais jusqu'à 14 000 et un financement à 0 % jusqu'à 60 mois sur le ID4. Chez Laval Volkswagen, on est là pour vous offrir le meilleur accompagnement et répondre à vos questions. Quand vous pensez Volkswagen électrique, pensez Laval Volkswagen.
Le quartier Cartier. Des condos locatifs pour un mode de vie urbain. Des unités 4 et 5,5 sur 2 étages sont disponibles pour votre famille. Grâce à leur fenestration abondante, les condos sont inondés de lumière. Plusieurs commodités sont disponibles dans l'immeuble. Visitez appartementurbain.ca.
Salut Québec! La 41e édition de l'opération Nez Rouge de Québec vient de se conclure et quel parcours exceptionnel grâce à vous, les bénévoles au grand cœur. Votre dévouement à braver le froid et la neige pour assurer un retour à la maison en sécurité a fait toute la différence. Chaque raccompagnement est devenu une soirée dont on va se rappeler. Un merci spécial à nos précieux partenaires qui rendent cette mission possible. Votre soutien fait toute la différence. On vous donne rendez-vous l'an prochain. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de Boulevard 102.1. Au Centre Auto Québec, les freins et les batteries sont garantis à vie. Au Centre Auto Québec, on vérifie votre conduite gratuitement ce mois-ci. Au Centre Auto Québec, c'est le meilleur tarif horaire au Québec avec le meilleur service. Au Centre Auto-Québec, votre voiture, notre passion.
À Fleur de Lys, nous avons tout ce qu'il vous manque et même tout ce que vous ne saviez pas qu'il vous manquait. En habitant au-dessus d'une galerie marchande, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sans mettre le nez dehors. Fleur de Lys, c'est votre condo locatif pour vos besoins, vos goûts et vos habitudes. C'est du confort, du service et de l'élégance. Fleur de Lys, votre bien-être, notre raison d'être. L'espace location est ouvert 7 jours sur 7. Place Fleur de Lys, porte 3. Détails à fleurdelys.com.
Depuis plus de 35 ans, le Dr Gilles Lamarre et son équipe offrent des traitements complets en dentisterie générale, incluant les services d'orthodontie des plus professionnels. Confiez vos dents au Dr Gilles Lamarre à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
418-875-1991.
Atelier de mécanique Boivin. Établi depuis plus de 40 ans dans le domaine de la fabrication mécanique, est à la recherche d'un machiniste et d'un soudeur. Salaire concurrentiel jusqu'à 40 de l'heure. Sur la rue Lavoisier à Québec, atelier de mécanique Boivin.
Postulez au info à commercial mecboivin.com.
Vous prévoyez déménager en juillet? Ne tardez pas. Visitez dès maintenant les condos locatifs L'Allier pendant que le choix est encore varié. Ces unités neuves en plein cœur du quartier Humano à Lévis combinent emplacement idéal et design intelligent. Découvrez ce projet sur votreallier.com.
Transat présente un couple qui cherche comment échapper à la déprime de l'hiver.
Si on faisait du yoga chaud?
Trop chaud.
Si on allait à la piscine?
Trop froid.
Au spa?
Trop chaud, trop froid, ça me tente pas. Mais ça me tenterait peut-être de partir en voyage, par exemple.
Genre dans un endroit où il y a une piscine, un spa puis du yoga chaud?
Hey, bonne idée!
Bonne idée!
Durant le solde Adieu l'hiver de Transat, économisez jusqu'à 40 % sur nos forfaits vers le sud. Visitez transat.com ou contactez votre conseiller Club Voyage. Des conditions s'appliquent. Air Transat, le voyage nous transporte.
Pendant les fêtes, tu risques d'entendre
« Pis, ça va-tu bien, ta job d'électricien? »
Tu es électricien ou mécanicien et tu aspires à mieux pour la prochaine année? Début 2025 est le moment pour façonner ta carrière à l'ABI.
Je suis Simon, directeur de la maintenance à l'aluminerie de Bécancour. Je t'invite à venir visiter l'usine et nos équipes le 23 janvier. Réserve ta place pour cette immersion qui pourrait te donner un tournant à ta carrière au emploi-abi.ca.
Hey Martin, entre gars, là, toi tu fais quoi quand tu te barres le dos parce que t'as pelleté trop fort?
PCN!
Pis quand t'es encore raqué parce que t'as voulu impressionner tes chums au hockey?
PCN! Je te le dis, Gab, note ça, parce que PCN s'occupe de tout. PCNphysio.com.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Je ne sais pas si c'est lundi, de la misère à parler, Maître Bellemare. Avez-vous des trucs, faites-vous des petites pratiques avec votre voix là, avant de rentrer en onde, comme les professionnels, les vrais professionnels?
Là. Non, je fais pas de pratique parce que je parle beaucoup en dehors des ondes. Fait que je suis pas mal. Disons que la parole, c'est pas mal mon outil de travail à la cour, au bureau et avec toi, évidemment.
Puis est-ce que c'est plus facile plaider un lundi ou un vendredi?
Moi, j'aime bien ça le lundi.
Le lundi?
Oui, mais il y a beaucoup d'avocats qui n'aiment pas ça parce qu'ils se remettent de la fin de semaine puis ils commencent tranquillement. Moi, j'aime ça le lundi, j'aime bien ça. Parce qu'on a eu justement toute la fin de semaine pour se reposer. On arrive, c'est clair, puis tout le monde est à l'heure. Puis ça part la semaine un peu rough, c'est sûr, un procès en commençant le lundi matin. Mais en même temps, ça ouvre le cerveau, puis ça nous permet d'avoir une excellente fonction cognitive.
Bon.
Alors, c'est
OK.
pour ça d'ailleurs qu'on a une chronique le lundi soir. Ça nous permet d'avoir un cerveau gonflé à bloc.
Ah, c'est ce qui... Mais dans votre cas, c'est ça. Dans votre cas, c'est un cerveau gonflé à bloc. Moi, dans le mien, je dirais que des fois, mes enfants me diraient, papa, non, toi, ton cerveau, il n'est pas gonflé à bloc. Hey, on
Ouais, c'est
parle.
trois fois, papa, que tu nous as la même affaire, là.
Ouais, on parle d'un sujet fort intéressant. On parle d'une reconnaissance d'une lésion professionnelle pour une travailleuse qui a été accusée faussement d'avoir été à l'origine d'une éclosion de virus de la COVID-19. Donc, j'imagine que ça date pas mal, cette histoire-là. La décision Morrison contre le manoir du Havre, ça a été rendu public. C'est quoi, le 18 juin 2024 que ça a été rendu, cette décision-là?
Oui, ça a été rendu, mais c'est quand même une décision intéressante qui a fait l'objet d'une certaine publicité sur le site Droit Inc., qui est un site consacré aux affaires judiciaires et juridiques. Et c'est la juge Monia Mainville, qui est attachée au tribunal administratif du travail de Sept-Îles, qui a prononcé cette belle décision-là qui implique un employeur qui est le manoir du Havre. Je suis allé voir sur Internet et c'est à Maria, en Gaspésie, donc dans la baie des Chaleurs.
Ouais, c'est un foyer de personnes âgées.
C'est en plein ça. Et la personne qui a été Madame ou Monsieur Morrison, je pense que c'est Madame Morrison, qui a été visée, elle a été accusée à tort d'avoir provoqué une éclosion de la COVID.
Par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont été sur les réseaux sociaux et ont dit que cette infirmière-là, en particulier, était la responsable d'avoir introduit la COVID-19 à l'intérieur de l'établissement.
Exactement. Et la lésion professionnelle, ben, c'est que Madame qui a été visée par ces accusations-là, qui n'étaient pas véritablement fondées, parce que c'était juste des rumeurs, c'est un peu comme le MeToo COVID, là, où une espèce de chasse aux sorcières, là. Il y a des fois que c'est vrai, des fois c'est pas vrai, mais quand c'est pas vrai, ça cause des dommages. Et cette personne-là a été en thérapie pour un trouble dépressif, un stress post-traumatique, parce que ça a été annoncé de façon subite et très certainement que ça fait partie des lésions professionnelles. Ça a été considéré finalement comme un accident de travail. Alors, un accident de travail, ça peut être physique, là. On s'entend que la plupart des accidentés qui sont sur la CNESST, ben, c'est des déchirures de l'épaule, une hernie discale, une fracture. T'es tombé sur un plancher glissant, t'as ramassé une boîte un peu tout croche, t'as fait un faux mouvement, t'as perdu l'équilibre. Ça, c'est du quotidien à CNESST. Ben, les lésions professionnelles de type psychologique, ben, on peut penser par exemple à une caissière dans une banque qui est victime d'un vol à main armée. On peut penser à quelqu'un qui est une serveuse dans un restaurant qui est menacée par un client. On peut penser à un policier qui se rend sur un lieu pénible où il voit un enfant de 12 ans qui est pendu. Exemple, je te dis ça parce que c'est déjà arrivé. Et ça va provoquer une blessure mentale, un choc mental, une blessure psychologique, alors qu'il n'y a aucune blessure physique. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, ce n'est pas tout de dire, tu sais, par exemple, moi, je travaille dans un bureau, puis à un moment donné, le boss, il vient me voir, puis il me dit, hey, tu as fait une erreur dans tel dossier, puis fais donc attention pour pas que ça se reproduise. Un simple reproche, ou bien ne donne pas mes vacances aux dates habituelles, ou bien un changement dans l'administration du bureau, puis le boss est un peu moins gentil, puis il ne m'invite pas tout le temps aux réunions. Puis ça, ce n'est pas un accident de travail. Il faut que ça ait quand même un certain degré de gravité. Alors, mais si les tribunaux reconnaissent que si, par exemple, tu es accusé de vol injustement, un simple congédiement, alors qu'on considère que tu n'es pas discipliné ou que tu es incompétent, ça ne passera pas nécessairement. Une fin d'emploi, ce n'est pas nécessairement un accident de travail non plus. Il faut que ça ait un certain élément de spontanéité, d'imprévisibilité, tu t'y attends pas, puis à un moment donné, pouf, on t'accuse de quelque chose de grave. Alors ici, c'est quand même, on accusait Mme Morrison d'avoir provoquer une épidémie de COVID dans un centre d'accueil, c'est quelque chose, là. Alors, on se souvient en 2021 du contexte de peur, de panique, d'hypervigilance qui régnait, surtout dans les centres d'accueil. Et ça s'est passé dans un centre d'accueil. Ça ne s'est pas passé dans un restaurant au coin de la rue. Là. Ça s'est passé dans un centre d'accueil où il y avait, à l'époque, des gens qui mouraient par centaines dans les centres d'accueil parce qu'il n'y avait pas de soins à cause de la COVID. Alors, on peut s'imaginer dans une petite communauté comme Maria, où il y a quelques milliers de personnes qui vivent. C'est très beau, Maria, mais ce n'est pas très populeux. Alors, on peut s'imaginer de ce que ça a pu avoir comme impact sur cette personne-là qui a reçu d'un coup, là, tous ses reproches, puis là, ça s'enchaîne, ses réseaux sociaux. Ça commence par une rumeur. Après ça, c'est ben oui, j'ai vu ci, puis moi, j'ai vu ça. Puis là, tous les usagers, les employés, la population générale se mêlent de tout ça. Alors, j'imagine ce qui a pu se passer dans la tête de Mme Morrison au moment où ça s'est produit. Et il s'est avéré que ce n'était pas fondé. Ça aurait pu être fondé. Elle aurait pu, par exemple, avoir la COVID, ne pas le dire, rentrer travailler, puis contaminer tout le monde. Ça aurait pu arriver. Mais encore là, attache ta tuque pour prouver ça, parce qu'un virus, c'est pas facile à prouver. Puis la propagation d'un virus, c'est pas nécessairement facile à prouver non plus. Puis même si c'était elle qui avait amené le virus dans le centre d'accueil, si elle est de bonne foi, puis que on ne contrôle pas tout, tu arrives avec une grippe, tu t'en vas travailler à un moment donné, puis tu donnes la grippe à quelqu'un. Ben là, la COVID, c'était beaucoup plus grave au niveau des conséquences. Mais tout est une question de fait. Mais dans ce cas-ci, le caractère imprévisible de l'accusation, la fausseté de l'accusation, l'importance des pressions qui ont été vécues par cette dame-là, le médecin a diagnostiqué un trouble dépressif. Et la juge a considéré que c'était d'une intensité telle que ça constituait un accident de travail au sens de la loi. Puis cette personne-là va être indemnisée tant aussi longtemps qu'elle va être traitée. Puis ça ne peut pas retourner travailler au centre Le Havre. Bien, la CNSST va devoir la recycler dans un autre domaine et payer la différence de salaire entre ce qu'elle gagnait avant puis ce qu'elle pourrait gagner dans un emploi moins bien rémunéré. Fait que c'est une jurisprudence intéressante. C'est sûr que c'est pas juste les cas de COVID qui sont couverts par ça, mais si éventuellement vous êtes accusé à tort d'avoir causé quelque chose ou un dommage ou une certaine perturbation dans le milieu de travail, peu importe la raison, ben, et que ça a des conséquences psychologiques, mais vous devez réclamer à la CNSST. Vous avez 6 mois à partir du diagnostic du médecin pour faire votre réclamation.
Est-ce qu'on a une idée des montants qui peuvent être octroyés?
Ben, c'est 90% du salaire net. Alors, le maximum que tu peux avoir de la CNESST, c'est à peu près 1200 $ net par semaine. Et là, on parle de 1200 $ net par semaine, c'est 60 000 net pour un maximum assurable autour de 95 000 par année. Ça change à chaque année. Donc, si tu gagnes, parce que j'ai déjà vu un médecin, moi, qui gagnait 500 000 par année et qui a été accidenté. Et il avait à peu près 20% de son salaire sur la CSST parce que ça plafonnait à peu près 75 000 à l'époque. Ce n'est pas toutes les pertes salariales qui sont payées. Ils payent à partir du lendemain de l'accident, mais ils payent un certain maximum. Quand tu as 1200 par semaine sur la CSST ou sur la SAC, là, tu es pas mal au plafond.
OK. Dernier sujet, Maître Bellemare. Surveillez-vous un peu ce qui se passe entre Donald Trump et le Canada? Est-ce que vous pensez qu'on va devenir le 51e État ou encore vous êtes un peu comme moi? C'est des tactiques de négociation que Donald Trump utilise pour essayer par la suite de prendre le dessus sur les Canadiens. Moi, je vois peut-être un accord au niveau de la sécurité, tu sais, le Canada, les États-Unis ensemble, puis on pourrait voyager entre le Canada et les États-Unis, on pourrait continuer d'importer et d'exporter, mais de voir que le Canada pourrait devenir un 51e État, moi, je n'y crois pas. De voir qu'il pourrait instaurer une surtaxe de 25%, je n'y crois pas. Ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est que des gens comme François Legault, des gens comme Doug Ford, des gens comme Daniel Smith commencent à se dire, OK, mais ça nous prendrait un plan, là, justement, pour arriver contre Donald Trump avec des arguments, là.
Oui, c'est ça. Puis ça nous prend un interlocuteur crédible aussi au Canada, parce que Trudeau, il n'est pas. Moi, j'écoute beaucoup les réseaux américains, CNN, Fox, etc., à peu près une heure et demie par soir. Puis je peux te dire que notre Justin Trudeau national, il a zéro crédibilité. La gauche woke, là, ça pogne pas bien, bien. Puis Trump, il est là pour 4 ans. Pas 4 mois, là. Il va être là 4 ans. Et même s'il meurt après 6 mois, c'est J.D. Vance qui va le remplacer comme vice-président. J.D. Vance, il est pareil comme Trump. Alors, Les républicains de droite qui sont au pouvoir, et ça va nous prendre un interlocuteur qui est capable de parler, donc qui comprend la langue de Trump. Et ça, ce gars-là, ça serait, à mon avis, Pierre Poilievre, en espérant qu'il va être élu avec une très forte majorité et que les Québécois vont y faire confiance aussi, non seulement les anglophones, mais ça prend un interlocuteur. Et c'est sûr que 51e État, moi, je pense que ça prendrait peut-être quatre États de plus. À la limite, on s'imagine que le Canada devient américain. Le Québec aurait un État, les Maritimes auraient un État, l'Ontario aurait un État, puis l'Ouest aurait un État. Tu ne peux pas penser à un seul État pour l'ensemble du territoire canadien compte tenu des disparités. Première des choses. Deuxième des choses, je ne suis pas sûr que c'est dans l'intérêt des Américains tant que ça. Parce que d'abord, on a une dette épouvantable. Eux autres aussi en ont une grosse, là, mais nous autres, on a une grosse dette. On a des régimes sociaux qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais c'est sûr que ce qui intéresserait les Américains, c'est les ressources
Les ressources,
naturelles.
ben oui.
On n'exploite pas le gaz de schiste, le gaz naturel, le pétrole. On est bien content de prendre le chèque de péréquation que le Canada nous envoie. Je pense que c'est 14.